Comment, sur le point de la vaccination, on va parler des écoles dans un instant, mais vous l'entendez le message? Est-ce que vous sentez la population prête autour de vous à se dire « Ok, on va se faire vacciner » alors qu'il y a encore quelques mois, c'était plutôt la réticence qui était en train de s'imposer?
Moi, écoutez, je suis pas spécialiste, mais en tout cas, je salue cette initiative. Il est parce que si ça pouvait économiser 25 000 lits, c'est énorme.
Et des morts.
Cette initiative, en fait, elle est, moi je la prends comme ça, c'est quand même la conséquence. Enfin, c'est un corps médical, des scientifiques, des professeurs, des spécialistes qui s'arrachent les cheveux, qui sont préoccupés d'une situation qui est critique et qui disent, qui sont des professionnels de la santé et qui disent, on ne pourra pas faire face si le Covid réexplose ou si on a de plus en plus de clusters. Ça pose le problème de l'état général de nos hôpitaux dans ce pays, dans un pays riche comme la France, où on ne peut pas faire face. Vous le disiez, chaque année, chaque été, c'est la même rengaine, c'est le même problème. C'est le nombre de lits. On paye aujourd'hui la politique de suppression de lits des différents gouvernements depuis 10 ans, depuis 20 ans. Et ça remet en cause véritablement la santé publique. Alors, vacciner contre la grippe, vacciner contre la gastro, oui, moi j'y suis évidemment favorable. Je suis bien conscient que dans la société, il y a des lobbies, il y a une nébuleuse qui est anti-vaccin, anti-progrès, qui est très réactionnaire. Il faut combattre ces idées, ces préjugés, parce qu'il en va de la santé publique générale de ce pays.
Jean-Pierre Mercier, sur ces paroles du président de la République, est-ce que vous dites aussi, effectivement, socialement, économiquement parlant, on ne pourrait pas supporter à nouveau une telle situation? Il n'y a pas de risque, il faut le prendre.
Faut le prendre. Le président de la République prend cette position parce qu'elle est, dictée par le MEDEF, elle est dictée par les grandes entreprises qui ont très mal vécu ces 2 mois d'arrêt de fabrication du profit. Concernant l'école, mais même, je vais revenir sur les entreprises, parce qu'il ne faut pas non plus dire n'importe quoi, et surtout, les responsables politiques ou d'entreprises font n'importe quoi. Je le dis et j'assume mes propos. À l'école, moi je suis d'accord qu'il faut rouvrir les écoles. C'est une évidence. J'ai assisté à des cours par Skype. Je peux vous dire que l'enseignante s'arrachait les cheveux, bien sûr. Et encore, elle avait des gamins dans l'ordinateur. Mais il n'y a rien qui n'est fait aujourd'hui pour préparer sereinement cette rentrée scolaire. Il n'y a pas eu d'embauche massive dans les écoles, pas d'embauche massive d'agents de service, d'enseignants, de tout ce qui fait fonctionner un lycée, un collège ou des écoles primaires, d'infirmières, etc. Et ça, c'est une décision politique de ne pas mettre d'argent dans l'école, parce que l'argent doit aller ailleurs. Sur les entreprises, bien sûr, moi je travaille à PSA, grande usine, grand groupe industriel, on a un protocole sanitaire, en veux-tu, en voilà, c'est au millimètre, c'est du lourd. Il n'y a pas photo là-dessus. Maintenant, quand il y a un cas positif d'un salarié, là, c'est l'opacité totale. La direction de PSA à Mulhouse et à Poissy a caché les cas, là, au mois de juillet, a caché les cas de salariés qui étaient positifs. C'est-à-dire les syndicats, les salariés n'étaient pas au courant, le CHSCT n'était pas au courant.
Comment vous l'avez découvert alors?
Parce que ça s'est su, parce que ça a parlé de bouche à oreille. Du coup, on a alerté la direction. L'enquête cas contact que vous avez fait, est-ce que ça a donné quoi? À Mulhouse, il y avait un salarié testé positif, le salarié n'a rencontré personne, selon la direction de PSA, dans une usine de 6000 personnes. Ça veut dire qu'ils sont prêts à aller jusqu'au mensonge quand ça touche la production qui fabrique le profit. Et il est là le danger. C'est qu'on est dans une société qui fonctionne avec la loi du profit. Et la loi du profit aveugle tout le monde.
Ce que vous dites, c'est que pour vous, l'économie l'emporte sur le sanitaire en ce moment, c'est ça?
L'appât du gain, la production, la fabrication de profit l'emporte sur la santé publique et sur des éléments logiques de base.
Alors messieurs...
Moi, les anti-masques m'énervent de plus en plus, déjà, première chose. Deuxième chose, si les masques doivent être obligatoires, il faut qu'ils soient gratuits. Voilà, moi je rappelle quand même qu'avant le Covid, un masque coûtait 5 centimes. Aujourd'hui, il coûte 10 fois plus. Parce que c'est la loi du profit, c'est la loi du commerce. Alors, et ça, c'est un scandale.
Alors, pardonnez-moi, je recommence. Si vous faites produire quelque chose, ça a un prix, ça a un coût. On le fait payer et financer par qui, quand, comment et doit-il être gratuit?
Mais s'il est fabriqué en France, déjà, s'il est fabriqué en France, ça fera travailler des usines françaises.
Les très grandes entreprises en France ont déjà des lignes de fabrication de masques chirurgicaux, que ce soit à Renault, à PSA, Alstom et compagnie, parce qu'ils ne veulent plus être dépendants, ils ne veulent plus payer le prix fort pour un masque, parce qu'il faut quand même rappeler, ça, moi, je veux quand même redénoncer, il y a des industriels qui s'engraissent sur le masque.
Surtout en Chine.
De la grande distribution. Et c'est pas qu'en Chine.
Il y a 8
Leclerc, Auchan, Carrefour, les grands distributeurs bien français, bien de chez nous, qui s'engraissent sur le masque chirurgical.
Avant même les distributeurs.
Mais s'ils n'avaient pas été là au moment du déconfinement, on aurait dû être dans le
sens. Avant les distributeurs, il y aurait eu
que l'État prenne en charge la fabrication des masques chirurgicaux à prix coûtant, sans faire de bénéfices. Il y a des millions de chômeurs, il y a de quoi embaucher, il y a de quoi fabriquer.
Est-ce que la France veut continuer à dépendre du bon vouloir de ses fabricants extérieurs, ou est-ce qu'elle veut retrouver un peu de souveraineté? Moi, je crois que c'est ça le sujet.
Jean-Pierre, merci.
C'est pas un problème de fabricants extérieurs ou fabricants nationaux. Vous prenez un patron qui va démarrer une fabrication de masques chirurgicaux, il va vouloir faire du profit dessus. Il va vouloir faire son beurre, il va vouloir gagner de l'argent, parce qu'on est, on est dans cette société où c'est la loi du profit qui gère, qui domine. Donc là, il y a une solution, c'est que l'État prenne en charge, prenne en main la fabrication de masques chirurgicaux en quantité suffisante et sans, à prix coûtant, sans qu'il y ait de profit. C'est quand même possible dans cette société qu'on fabrique quelque chose sans qu'il y ait de profit. Alors je sais que ça peut heurter plein de bonnes âmes ce que je dis, c'est pas politiquement correct selon un certain nombre d'analystes économiques, mais moi je vous garantis que le profit, il est en train de tuer la société. C'est ça le nœud du problème, c'est ça le problème.
Dernier sonne, Jean-Pierre, merci.
Bon, écoutez, les images, c'est sûr que ça pose question, comme ça posait question la jeunesse dorée à Saint-Tropez ou dans le 16e arrondissement, qui faisait ses fêtes privées à des centaines et des centaines, comme ça pose question le Puy du Fou, qui est à 9000,
personnes.
Ok, vous allez défendre le Puy du Fou et la jeunesse dorée du 16e. On est d'accord. J'en attendais pas moins de vous. Il n'y a pas de souci. Maintenant, interdire, non, c'est pas du tout la solution, je pense, de toute façon, d'interdire. Après, des rassemblements de 5000 personnes, de moins de 5000 personnes, nous, vous voyez, on voulait faire la fête des retrouvailles de lutte ouvrière à Presles. Donc, c'était un rassemblement, une fête sur 2 jours, en plein air. Moins de 5000 personnes, et le préfet du Val-d'Oise nous l'a interdit. Voilà, donc on ne pourra pas se réunir, discuter politique, discuter de ce qui se passe dans la société, l'actualité générale. Oui, il y a des mesures à géométrie variable. Bien sûr que ces images, oui, ça pose question, mais de toute façon, le gros problème, je vais vous dire, le gros problème avec le Covid, c'est qu'il n'y a absolument pas du tout de stratégie au niveau du gouvernement. Il y a du bricolage. Depuis le début, c'est mensonge et bricolage. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, les jeunes, ils disent, bon, de toute façon, là-haut, ils ne savent pas gérer, laissez-nous vivre. Voilà, donc c'est bien dommage. Moi, je ne cautionne pas forcément ça, mais voilà, c'est ainsi. Bon,
franchement, l'analyse, là, est quand même un peu nettement exagérée. C'est pas parce qu'on ne sait pas. On sait maintenant qu'il vaut mieux avoir des masques que pas de masques, il vaut mieux avoir la distanciation sociale. Bon, on le sait. Même si au début de
bah partout, COVID,
on ne savait pas exactement.
Bon, au Puy du Fou, on s'est arrangé avec.
Avec la
législation.
Monsieur Mercier ne doit pas savoir effectivement comment s'organise la cinécénie au Puy du Fou. Les gens sont tous masqués.
Ouais, je suis pas adepte.
Voilà.
Je suis pas
adepte. C'est pas une question d'être adepte. C'est juste de se renseigner avant de parler.
Je suis allé une fois.
Non,
mais
c'est pas une question d'être adepte. C'est une question de.
C'est pas mes idées qui sont défendues.
Mais non, mais là, vous.
Oui, moi je trouve c'est toujours très facile de culpabiliser, de prendre une minorité de crétins. Je vois pas en quoi l'insulte amène quelque chose à l'argument. Le vrai responsable, quand même, dans toute cette affaire du Covid, c'est quand même le gouvernement qui, si on remonte au tout début...
Le gouvernement n'est pas responsable du virus, quand même.
Les mensonges... Ils nous ont menti depuis le début, quand même. Après, ils ont fait du bricolage. Ils nous ont dit que le masque, c'était de toute façon pas du tout adapté, qu'il fallait pas le porter. Il y avait même des mesures, des menaces de prison sur les pharmaciens qui auraient osé vendre des masques. Alors après, stigmatiser quelques-uns en leur faisant porter la responsabilité de la circulation du virus, là, je ne suis pas d'accord.
Il y a quand même un égoïsme. Convenez que les gens s'en foutent.
Mais c'est l'égoïsme, d'abord. Il est dans la société, j'en conviens. Voilà, l'individualisme sujet, aussi, bien sûr. Mais vous savez, quand Macron parle de tout son discours des premiers de cordée sur l'individualisme, etc., il participe à cet individualisme dans la société. Oui, tout le collectif, tout le sentiment collectif, les réactions collectives reculent dans la société. Bien sûr. Et moi, je suis pour le collectif. Je suis pour une réaction collective.
Le sentiment d'appartenir à une communauté de devenir, c'est-à-dire la nation, c'est quand même quelque chose de fort. Or, c'est vrai que là, on a l'impression que
je
mets pas le masque et puis je me débrouille.
Je vous ai donné un exemple. Alors, moi, je vais stigmatiser une catégorie. Ce sont les responsables d'entreprise qui cachent les cas positifs de salariés parce qu'ils ne veulent pas remettre en cause leur production. C'est lamentable, c'est criminel, c'est irresponsable. Alors moi, je vais stigmatiser cette catégorie qui fait travailler des milliers de personnes dans un endroit clos. L'usine de PS à Mulhouse, c'est 6000 personnes. Poissy, c'est 3000 personnes. Il y a eu 3 cas de Covid positifs à Poissy. La direction n'a pas voulu informer les salariés. Par contre, c'est ça qui est irresponsable. Alors oui, et ils ont une responsabilité énorme. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir donner les responsabilités vraiment à ceux qui ont les manettes de la société. Eh bien, c'est eux qui ont les manettes. Et pour l'instant, ils sont incompétents et incapables. Voilà, il faudrait que ça change.
Vous êtes sûr, vous, que vous feriez mieux dans toutes les circonstances ?
Oui.
Est-ce que vous auriez mieux analysé le virus ?
Oui, les salariés auraient mieux fait. Les infirmières ont fait, le personnel soignant a fait la démonstration dans les hôpitaux, la réorganisation des hôpitaux, c'est pas le ministre. Oui. Ce sont ceux qui étaient sur le terrain, c'était ceux qui étaient dans la tranchée. Oui. Et dans les entreprises, c'est exactement pareil. Oui, mais c'est évident qu'on ferait mieux.
Vous avez, les entreprises font quand même, la plupart, le maximum et annoncent le maximum.
Ils ont tout intérêt.
Sauf
à partir du moment où ça touche la production. Je l'ai vécu. On a été témoin. Et ça, c'est vrai après ça, c'est vrai à Renault, c'est vrai dans les abattoirs.
Alors, Jean-Pierre Mercier, un salaire minimum aux États-Unis qui serait supérieur au salaire minimum en France. Bon, voilà, avec un peu de malice, je me tourne vers vous.
Mais vous avez raison.
Mais vous imaginez que peut-être dans moins de 100 jours, voilà ce qui arrive aux États-Unis ?
Mais pour ça, il faudrait croire les promesses des politiciens. En France, moi, j'ai 52 ans, ça fait très très longtemps que je ne crois plus aux promesses des politiciens. Je rase gratis, je suis en élection. Forcément, je balance des promesses qui peuvent me rapporter des voix, parce qu'il y a un enjeu énorme pour ces deux écuries, les Républicains et les Démocrates. Donc, me demander de croire à ça, je vous dis non. Moi, j'ai arrêté de croire au Père Noël, il y a déjà pas mal de temps. Donc, je ne crois pas à ce politicien démocrate qui, c'est vraiment des promesses. Voilà. Et pour les travailleurs américains, que ça soit Trump ou Biden, je vous le dis, ça sera la même chose. Alors, Je finis juste parce que je vous vois réagir et je comprends que vous réagissiez.
Oui.
Le style va complètement changer. C'est évident. Trump, ok, c'est Trump. Mais Biden sera différent dans le style, mais dans la politique américaine, chez les grands financiers américains, chez les grands capitalistes américains, ça sera exactement la même chose.
Bon, Jean-Pierre Mercier, on commence avec vous. Vous nous parlez d'un plan de licenciement. Vous voulez nous préciser peut-être les choses. On ne l'a pas beaucoup vu, on n'a pas beaucoup entendu parler.
C'est le plan de licenciement du jour. C'est l'entreprise Cargill, un géant américain. 3 milliards de dollars de bénéfices qui a obtenu le feu vert de la part du gouvernement d'un plan de licenciement de 186 personnes sur 300 d'une usine dans le Nord. Donc c'est une industrie agroalimentaire. Prétexte du Covid, restructuration, etc. C'est le plan de licenciement du jour parce que c'est une avalanche. Depuis des mois, on vit sous des plans de répétition, plan de licenciement, pardon, à répétition, dans une crise économique dont le Covid a simplement été l'accélérateur, parce que cette crise économique, elle existait avant le Covid. Et face à cette crise économique, voilà, moi, c'est mon coup de gueule, c'est les grands patrons, les actionnaires du CAC 40 qui veulent faire payer à l'ensemble du monde du travail cette crise pour protéger leurs profits, pour protéger leurs privilèges, pour protéger leurs dividendes. Et il faudra que le monde du travail reprenne confiance dans ses réactions collectives, dans sa force collective pour changer la donne et pour défendre ses intérêts, pour défendre ses conditions de vie. Et il faudra, face au licenciement et au plan de licenciement, imposer à nos patrons de répartir le travail. Personne ne doit être licencié, intérimaire, CDD ou CDI. Personne ne doit être licencié et se répartir le travail sans baisser les salaires. Pour nous travailleurs, nous salariés, c'est l'emploi, c'est le salaire, c'est ce qui nous fait vivre. On ne doit pas le perdre.
Jean-Pierre Mercier, ça doit être un sujet de combat.
J'ai tort, hein,
ça doit être un sujet de combat. Vous êtes syndicaliste, vous militez. Ça doit être un sujet de combat dont chacun doit se saisir, là.
Moi, je milite pour la cause des travailleurs. Et la cause des travailleurs, elle englobe évidemment même la cause animale. Vous parliez des abattoirs où les animaux sont traités d'une manière immonde, où des salariés sont obligés de travailler dans des conditions complètement dingues et révoltantes. Et où, encore une fois, je reviens là-dessus parce que c'est quand même le nerf de cette société, c'est la loi du profit qui prime. Et même y compris si des salariés voulaient dénoncer les conditions qui sont faites aux animaux, ils se feraient licencier sur le champ. Donc oui, il y a des droits à imposer, il y a des combats à mener pour que l'ensemble des salariés qui travaillent dans toutes ces sphères animales puissent mettre sur la place publique tout ce qui ne va pas, dénoncer tout ce qui ne va pas et puis imposer un changement.
Basique.